BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Je suis ravi de cette émission, une semaine après le Brexit et puis le week-end de ce sommet européen prenant acte du Brexit, parce que je n'ai pas tout compris sur ce qui s'est passé. Les pro-Brexit au Royaume-Uni disaient « reprenons les commandes ». C'est pour ça que 17 millions de Britanniques ont voté pour eux. Or, on s'est rendu compte qu'ils ne savaient pas conduire. Ils sont victimes d'une impréparation, à mes yeux, coupable. La livre a dévissé, le Royaume-Uni a perdu son triple A, les pro-Brexit sont revenus sur leur principale promesse de campagne. L'article 50 sur le retrait de l'Union européenne n'a toujours pas été déclenché. Et comble du tout, Boris Johnson, qui était donc le leader des tenants de la sortie, finalement a dit « bon, je renonce à me présenter au poste de Premier ministre ». Je suis un petit peu perdu, j'ai l'impression que les artisans du Brexit sont des charlatans. Et c'est pour ça que c'est précieux d'avoir aujourd'hui Édouard Ferrand sur le plateau. Bonjour Édouard Ferrand.
Bonjour.
Alors, vous êtes chef de file des élus Front National au Parlement européen.
Exactement, première délégation française.
Première délégation française, vous avez fait un carton aux dernières élections européennes. Honnêtement, est-ce que vous êtes capable de dire le contraire? Est-ce que vous êtes capable de dire non, les pro-Brexit ne sont pas des charlatans?
Goodbye, comme on pourrait dire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a vécu une très belle semaine, une semaine qui respire justement la souveraineté, la démocratie. Et c'est vrai que c'est un petit peu nouveau, mais je crois que c'est l'événement le plus important depuis la chute du mur de Berlin. Je crois que l'Europe est malade et fatiguée. Malade parce que la Commission européenne aujourd'hui a perdu du souffle. La Commission européenne est un organisme qui n'est pas élu démocratiquement. Fatiguée parce qu'elle a affaibli les parlements nationaux. Et moi, je crois qu'il faut que l'Union...
Pour vous, c'est normal. Ce qui se passe là maintenant, ça, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas pris d'un vertige.
Non, mais au contraire. Je pense qu'on est vraiment très satisfait. On a même félicité nos amis anglais. Et on espère que le prochain tour, ce sera la France avec le Frexit.
Bonjour Florence Autrey, correspondante de l'AGFI ici à Bruxelles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette impréparation? On partage ce diagnostic? Il y a une vraie impréparation?
Oui, pour le moins. Ça peut se résumer d'une phrase, c'est-à-dire un rejet n'est pas un projet. Et ce qui les unifiait, c'était le rejet, c'était pas le projet. Ils sont pas d'accord entre eux. D'abord, il y avait une partie du camp pro-Brexit qui, en réalité, n'y croyait pas vraiment. Et un député représentatif de ce camp ici, Monsieur Kamal, proche de Cameron, néanmoins pro-Brexit. Je me souviens de l'avoir vu le 24 au matin. Il faisait un briefing à 7h du matin. Il avait l'air lui-même. Il n'était pas du tout triomphant, je peux
non.
dire.
Bonjour, très, très Franck inquiet. Engel, eurodéputé luxembourgeois de la famille PPE, Parti Populaire Européen. Pour vous, impréparation, est-ce que ce sont des charlatans, les partisans du Brexit, les artisans de cette victoire au référendum?
Écoutez, c'est un peu comme toujours, si on veut parler de quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. J'ai l'impression que pendant 3 mois, il y a eu un bus, celui de M. Johnson et d'autres, qui a parcouru, sillonné le Royaume-Uni, avec écrit dessus, chaque semaine, 350 millions de livres perdus en Europe. Premièrement, c'est pas 350 millions, ce n'est qu'un tiers de ça. Deuxièmement, le budget britannique, ça s'élève à combien? Hein, question quiz, parce qu'il n'y a personne qui a la réponse à ça. 800 milliards de livres. Par rapport à ces 800 milliards de livres qui ne suffisent apparemment pas pour faire de la bonne politique au Royaume-Uni, on a fait comme si 6 ou 10 ou 12 milliards supplémentaires feraient la différence et comme si on rénovait avec ça le système de santé et soudain, on se rend compte que ça ne marchera même pas. C'est ridicule.
Les artisans du Brexit sont-ils des charlatans? Demandez le programme de 500 millions d'Européens avec Édouard Ferrand, Franck Engel et Florence Autrey. Alors tout d'abord, alors que l'on s'installait autour de la table, Franck Engel regarde les magnifiques panneaux qui nous entourent sur ce studio pour ceux qui regardent à la télévision, et en disant il faudrait quand même peut-être changer le titre de l'émission, 500 millions d'Européens, ça colle plus, Franck Engel.
Il y a un pays de 60 millions et quelques qui a souverainement décidé de quitter l'Union Européenne, sauf que ce pays est divisé au moins en 3. Donc je suggérerais dans... soustraire une cinquantaine de millions, il y aura 10 millions de Britanniques qui resteront de toute façon.
D'accord, donc ça veut dire les Écossais, ils sont 5 millions et l'Irlande du Nord.
5-6 plus l'Irlande du Nord et si j'entends le maire de Londres, il ne voudra pas quitter du tout, même
donc,
s'il devra.
Donc vous pensez que ça va se faire, il va y avoir des négociations et qu'ils vont pas du tout sortir, parce que normalement l'article 50 du traité, sans faire trop de jargon, s'entend que le Royaume-Uni doit sortir et ensuite les autres entités peuvent représenter demande d'adhésion.
Le Royaume-Uni ne pourra plus sortir une fois que le Royaume-Uni n'existera plus. Et si l'Écosse fait un peu de vitesse, déclare son indépendance, ce que j'anticipe, d'ici la fin de l'année ou un peu, il n'y aura plus de Royaume-Uni. Il n'y aura donc plus de Royaume-Uni qui pourra sortir, et ce qui du Royaume-Uni dans l'Union européenne veut y rester, pourra.
Édouard Ferrand, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous me conseillez pour le titre de l'émission? Est-ce qu'on commence déjà à faire les soustractions ou bien mieux vaut attendre ce qui va se passer en France, aux Pays-Bas et autres?
Oh, moi, je vous dirais tout simplement, j'étais encore la semaine dernière en Suède, la Scandinavie est la région d'Europe qui a la plus forte croissance. Or, la Scandinavie ne fait pas partie de la zone monétaire européenne, il ne faut pas partie de l'euro. Que ce soit la Suède, le Danemark ou la Norvège. L'Angleterre n'en fait pas partie non plus. L'Angleterre, elle a toujours été adepte de la politique du grand large, c'est-à-dire l'alliance avec les États-Unis. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les Anglais sont déjà tournés vers les États-Unis. Mais surtout, n'oubliez pas que l'Angleterre, c'est le Commonwealth. Le Commonwealth, c'est 50 nations souveraines, notamment le commerce avec Singapour, avec Taïwan, avec Hong Kong. Et moi, je ne me fais aucun souci
et
pour les
traité.
Anglais.
Il n'y a pas de traité.
Et sans traité. Et sans traité.
Florence, est-ce que les artisans du Brexit sont-ils des charlatans à vos yeux? Le Front National s'était réjoui. On va reprendre un précédent. Marine Le Pen est en pleine forme en ce moment. Là, elle vient de se réveiller après une diète médiatique. Donc, en se félicitant des résultats de ce Brexit. La dernière fois que j'avais senti aussi en forme, c'est quand Syriza avait gagné en Grèce le référendum contre le plan d'aide européen. On a vu ce que ça avait donné derrière. Mmh. Est-ce qu'à votre avis, on se dirige vers le même type de scénario?
Alors, c'est très intéressant. Ça va être très compliqué. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont déclencher. En réalité, on ne sait même pas s'ils vont déclencher
l'article
50 qui ouvre une période de 2 ans de négociation. Pourquoi?
Au maximum.
Parce que
il tombera tout seul, l'article 50.
Puisque cet article, si je peux me permettre, a été conçu d'une façon presque méchante, pour ne pas dire perverse, parce qu'à partir du moment où on le déclenche,
par Valéry Giscard d'Estaing en son temps.
À partir du moment où vous le déclenchez, vous vous retrouvez dans une position d'infériorité, puisque de toute façon, l'issue est fatale. Donc, que pouvez-vous négocier, puisqu'à la fin, de toute façon, vous êtes dehors. Et je crois que c'est un article qui n'est pas idiot, parce qu'il a été fait pour créer un effet de réalité.
Le problème, c'est qu'on déclenche l'article, on est dehors.
Oui.
Non. Au bout de 2 ans.
On n'est pas dehors au bout de 2 ans, pour la bonne et simple raison qu'il faudrait une décision concordante du Conseil européen et des autres institutions.
L'unanimité prévaut pour l'établissement des lignes directrices qui guident la négociation pendant les 2 ans. Le traité de sortie est adopté à la majorité.
Bravo. Majorité qualifiée.
Majorité qualifiée. Donc, après, évidemment, politiquement,
il faut une décision des institutions communautaires.
Ah oui,
qu'est-ce que j'ai dit de faux?
Non, mais je croyais que vous aviez
alors,
dit que
un pays on reprend là-dessus. Édouard Ferrand, quand vous voyez que la livre a dévissé littéralement, quand même.
Non, mais ça, c'est pour les romans photos, ça.
Peut-être. En tout cas, par exemple, Nigel Farage, qu'on connaît bien ici, l'eurodéputé et le chef des UK Independent Party, ancien banquier, qui disait « De toute façon, même si la livre sterling dévisse, ce sera bon pour nos exportations. » Aujourd'hui, il déchante.
Non, la livre a pris plus 7% depuis le 1er janvier 2016. Le CAC 40 a pris plus 3%. Et je pense que la baisse qu'on a constatée effectivement de 11% a été rétablie sur cette dernière semaine. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est une des peurs qu'on a agitées justement contre les Anglais en leur disant qu'ils ne pourront plus venir sur le territoire européen sans visa. Le fait qu'ils aient une monnaie qui soit une monnaie complètement aplanie justement par rapport à les soubresauts. En fait, le Brexit, il s'est pas du tout fait sur les aspects économiques, contrairement à ce qu'on a dit. Les deux raisons qui ont justement poussé les Anglais à voter pour le Brexit, c'est premièrement la directive détachement des travailleurs, puisqu'il y a plus de 300 Polonais qui sont en, en Angleterre et ça crée des vrais problèmes avec les PMI, PME. Je pense que
300,
vous êtes d'accord.
300 000.
Oui.
300 000. Hein et plus de 300, ça irait.
Et deuxièmement, c'est la crise migratoire, notamment avec l'effet Calais, le fait qu'il y ait les accords du Touquet qui mettent non pas la frontière avec l'Angleterre en Angleterre, mais qu'elle soit sur le territoire français. Et les Anglais ont vu justement les drames, le drame de Calais, le drame de la Grande Syrte. Et ça, ça a joué énormément dans la réflexion des Anglais. Et vouloir uniquement...
Bah, selon Boris Johnson, non. Frank Engel, Boris Johnson, qui nous annonce aussi cette semaine, enfin non, dans son éditorial lundi, qui dit finalement, c'est pas pour des questions d'immigration que les gens se sont manifestés et ont voté pour le Brexit.
Lui est de toute façon bien placé pour le savoir parce que lui s'est engagé dans un camp avec lequel il n'a rien à voir, tout comme a priori il n'a rien à voir avec le camp contraire. Simplement pour s'opposer à David Cameron en espérant de pouvoir lui succéder, peu importe ce qui se passe.
Et finalement, il n'est même pas candidat.
Eh bien, ce train-là est raté parce qu'il vient de se rendre compte, les moments de réalisation après le vote, qu'il n'a pas la moindre chance de se retrouver à la tête du Parti conservateur, et donc c'est parti raté. Moi, je suis foncièrement d'avis que le problème est autre. Le problème est vraiment autre. Vous avez en Grande-Bretagne, depuis 30 ans, un paysage médiatique unanime, avec une exception, qui dit « l'Europe, c'est de la misère ». 30 années d'endoctrinement pareil ne se redresse pas par une campagne de 3 mois.
Il faut que j'intervienne. En 1999, si vous me permettez, en 1999, lorsqu'on nous a dit, vous allez voir, avec l'installation de la monnaie euro, c'est plus de croissance, c'est plus de pouvoir d'achat, on va créer des emplois. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Moi, je vois dans nos départements, moi qui viens de Bourgogne, je peux vous dire que dans mon département de Lyon, la fin de mois, elle commence en début de mois. Il y a une crise économique qui est très sévère. Je crois que la crise d'austérité qu'a imposée la Commission européenne, aujourd'hui, rejaillit sur le vote. Et je pense que si on faisait voter la France, voire même les 27 autres pays européens, je pense qu'il y aurait, à mon avis, des grosses surprises, c'est-à-dire d'autres Brexit.
Les artisans du Brexit, on pense notamment à Boris Johnson, on croyait que c'était par calcul politicien, parce que finalement on peut dire que David Cameron aussi est un artisan du Brexit, même s'il avait fait campagne pour le Remain. Mais Boris Johnson, on a vraiment été totalement surpris ici, la rédaction de BFM Business à Bruxelles, en voyant que finalement il n'allait pas devenir candidat pour devenir Premier ministre, simplement parce qu'il n'a aucune chance au sein du Parti des conservateurs. Peut-être qu'il attend les prochaines législatives au Royaume-Uni. Et là, il aura un certain soutien populaire. Les artisans du Brexit sont-ils des charlatans ? On poursuit la discussion juste après un court message publicitaire.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Oui, depuis le Parlement européen à Bruxelles, dans 500 millions d'Européens, où nous posons cette question. Les artisans du Brexit sont-ils des charlatans ? Avec nous, Frank Engel, eurodéputé luxembourgeois du PPE, Florence Autret, correspondante de l'AGFI à Bruxelles, et Édouard Ferrand, chef de file des eurodéputés FN, la plus grande délégation française ici au Parlement européen, comme il aime le rappeler, et c'est vrai. Jean-Marie Le Pen, alors on parle de nos amis grands-bretons qui ont donc voté, ils étaient 17 millions et demi à dire qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne. Finalement, derrière, il y en a pas mal qui l'ont regretté, il y en a qui sont toujours très contents. Et puis surtout, on a vu cette bérésina du côté des leaders politiques qui ont mené cette campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je voudrais juste revenir sur Jean-Marie Le Pen en 2002. Jean-Marie Le Pen qui s'était retrouvé au second tour de la présidentielle et qui avait été pris de vertige. On l'avait vu dans le documentaire de Serge Moati. Et il l'a reconnu lui-même, Jean-Marie Le Pen, dans une interview l'an dernier. Je le cite, en 2002, c'est vrai, n'est-ce pas ? Enfin, je ne vais pas faire l'imitation. Je le cite. « J'ai envisagé avec une certaine angoisse qu'il y ait une déferlante populiste. Je ne suis pas spécialement un homme politique qui a la réputation d'être peureux, mais je sais évaluer le danger. Quand vous vous retrouvez dans l'hypothèse d'être président de la République alors que vous n'avez pas l'appareil pour le faire, vous ne trouvez pas que ça puisse susciter légitimement une impression d'angoisse. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes un branleur. » Voilà, là je cite Jean-Marie Le Pen. Clairement, l'impréparation totale, c'était le cas déjà en 2002. Et on voit ceux qui veulent casser le système, qui veulent faire table rase, et derrière, ils n'ont rien.
Depuis 2002, il y a eu 2011, et Marine Le Pen est devenue présidente du Front National. Et aujourd'hui, Marine Le Pen a été classée, notamment l'année dernière, par le magazine Time, comme parmi les 100 personnalités les plus influentes au monde. Marine Le Pen aujourd'hui est la...
Donc vous félicitez qu'un magazine américain...
On aime les Américains, on aime les Russes, mais on aime aussi les Américains. Je crois que les Américains, au contraire...
Vous aimez surtout ceux qui vous financent, n'est-ce pas,
hein? Bon, enfin bon, on va pas parler du LuxLeaks ni de l'affaire de Jacques Santer, parce que souvenez-vous...
Surtout pas.
Hein, Jacques Santer, il a démissionné pour corruption, hein.
Moi, je vous dirais, pas lui. Il a fait démissionner son collège en raison d'une commissaire française qui refusait d'assumer son délit de corruption, n'est-ce pas?
Hein, donc voilà. Simplement, moi, ce que je voudrais
vous réagir là-dessus, sur l'impréparation. En gros, on voit bien, et la question c'est.
C'est une question d'impréparation. C'est que le
Jean-Marie Le Pen, là, il est pris en flagrant délit d'impréparation en 2002. Donc. La question est au même titre que Boris Johnson est pris en flagrant délit d'impréparation en 2016 pour la sortie de l'Union européenne. Donc est-ce que vous, au Front National, vous êtes vraiment prêt? Vous prenez la sortie de l'euro, la sortie de Schengen, potentiellement la sortie de l'Union européenne?
Écoutez, il y a eu, lors des élections régionales de l'année dernière, on a montré que dans nos mairies, les 12 mairies où siège le Front National, c'était des mairies qui étaient plutôt bien gérées, puisque 70% des administrés le trouvaient. On l'a montré aussi dans le cadre de nos conseils régionaux. Aujourd'hui, Marine Le Pen est devenue une grande personnalité européenne. Et je dirais simplement que Marine, aujourd'hui, elle sait que le sens de l'histoire va dans notre sens, c'est-à-dire qu'il y a un besoin aujourd'hui de plus de démocratie, d'une autre Europe. Et cette Europe, c'est l'Europe des nations et des libertés. On a monté...
C'est le nom de votre groupe politique.
Voilà, on a monté l'Union européenne à l'envers, c'est-à-dire qu'on a fait du tout économique, où le politique est subordonné à l'économie. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner son sens politique à l'Union européenne et arrêter d'en faire un instrument économique.
Florence. Moi, je vois deux contradictions au moins énormes dans ce que vous dites, pardonnez-moi. D'une part, vous dites l'Europe est trop économique, elle devrait être politique. C'est quoi l'Europe politique? Vous voulez faire une Europe fédérale, c'est ça?
Non, c'est une Europe de civilisation.
Mais c'est pas de la politique, ça s'invente pas, la civilisation, ça se construit.
Les pères fondateurs, ils voulaient plus jamais la guerre.
Il faut que les gens se voient, il faut qu'ils fassent du droit ensemble, il faut qu'ils fassent des traités. C'est ça la civilisation, monsieur. C'est pas avoir Renan et Barrès dans sa bibliothèque. Ça ne parle à personne, si vous voulez.
Mais si, ça parle à beaucoup de monde, justement.
Non, chez vous, mais pas aux Européens, pas à 500 millions d'Européens.
On peut pas faire fi de l'histoire de l'Europe.
L'Union Européenne, c'est ce qu'on a créé en commun, si vous voulez. C'est justement quand on met de côté toutes les différences culturelles qui sont une richesse, mais qui sont aussi des choses qui nous différencient les uns des autres, nos musiques, nos littératures, nos habitudes, nos manières de manger,
et bientôt une Europe à 34.
Et on crée un truc politique ensemble.
Vous êtes d'accord pour l'Europe des traités de libre-échange?
Alors justement, j'allais vous poser une autre question.
Oui,
le traité transatlantique. Marine Le Pen, demain, se retrouve face à Theresa May, qui lui dit, écoutez, moi, je suis comme vous.
Alors, Theresa May est pressentie...
Pour être Premier ministre?
Pour être Premier ministre, parce qu'elle est pressentie, en tout cas, pour être... élue par la base conservatrice au mois de septembre, et elle pourrait devenir le prochain Premier ministre, sauf qu'elle a fait campagne pour le Brimail.
Oui, bon, admettons, elle tire les conclusions, c'est une démocrate, elle tire les conclusions du référendum. Elle dit, Madame Le Pen, écoutez, c'est merveilleux, moi je suis comme vous, en tout cas j'ai écouté mon peuple, votre peuple aussi a voté pour sortir de l'Union européenne, maintenant on va négocier un traité de libre-échange. Parce que c'est ça qu'ils vendent, les Britanniques, c'est de dire finalement, nous sommes un ensemble de nations souveraines, on va faire du commerce entre nous, on va être prospères, ça va être fantastique, chacun sa liberté, on va faire des traités. Vous voyez, négocier un traité de libre-échange et des conservateurs britanniques, le Front National, mais vous n'y arriverez jamais. Vous allez mettre 15 ans, ce sera le chaos, quoi. C'est ça le grand mensonge.
Mais les Anglais, ils n'ont pas besoin de ça. Les Anglais sont à la tête du Commonwealth.
Oui.
Ils négocient avec les États-Unis, ils négocient avec l'Australie,
C'est comme si les États-Unis faisaient partie du Commonwealth.
C'est la politique du grand large. On sait très bien que
il ne suffit pas,
le partenariat privilégié.
Il ne suffit pas de distance de la géographie. Hein. Les Britanniques se sont fait dire par le président Obama de façon assez claire.
Oui,
et c'est la seule chose qu'il peut leur dire.
Oui, mais il a arrêté sa venue, lui, parce que franchement, il les a fait perdre en Angleterre.
S'ils veulent refaire un traité de libre-échange avec les États-Unis, ils vont faire la queue comme tout le monde, n'est-ce pas? Derrière tous les autres qu'ils sont actuellement en train de négocier. Ça leur prendra 8, 10, 12 ans. Je souhaite bonne chance à ce qui restera du Royaume-Uni pour négocier ce traité de libre-échange. Avec le Commonwealth, est-ce que vous croyez vraiment que les Canadiens n'ont rien de mieux à faire, que les Australiens n'ont rien de mieux à faire, que les Néo-Zélandais n'ont rien de mieux à faire...
Les Camerounais.
Ceux-là aussi. Que de se tordre totalement
pour satisfaire les besoins urgents d'une économie britannique qui ne peut plus être alimentée à partir du continent européen.
Mais ce qui est intéressant dans l'argument, en revanche, absolument, vous allez répondre, et juste pour accentuer ça, c'est que le Royaume-Uni a le Commonwealth, d'accord, mais la France a quoi? Parce que là, vous parlez du Commonwealth comme si pour le Royaume-Uni, il y avait quelque chose, alors que la France n'a pas ça. Et répondez à Frank Engel.
La zone euro est la zone qui a la plus petite croissance des zones mondiales. La zone euro aujourd'hui, c'est une zone. Nous sommes un nain économique. Alors, me donnez pas des leçons, parce qu'aujourd'hui,
un nain économique, avec une croissance de moins de
2% la zone euro.
Oui, et alors
non, mais on a l'impression.
On est le premier marché.
Leur gouvernance économique. Ils vont enfin
mais
pouvoir justement.
Ils l'avaient toujours. C'est comme s'ils avaient été dans l'euro.
Bien sûr que non, ils l'avaient pas.
Mais exactement. Alors, mais vous essayez de nous prouver quoi? La zone euro est le principal marché mondial. Elle a une croissance qui est encore supérieure à celle du Japon. Et le Japon, depuis une vingtaine d'années que sa croissance est tiède, tient encore plutôt bien. Nous traînons légèrement derrière les États-Unis. Et vous n'allez quand même pas nous faire la comparaison avec des économies du tiers-monde, qui ont un peu plus de croissance. Que la Chine ait 6%, je veux bien. Mais c'est quelle comparaison, ça?
La zone euro a la plus faible croissance des régions du monde, voilà.
Premièrement, c'est pas vrai. Et deuxièmement, vous comparez des choses qui ne me paraissent pas.
Sur l'article 50, vous saviez pas répondre, mais alors là, en plus, ça devient catastrophique.
Vous qui êtes vous-même éditorialiste, quand vous voyez The Sun, qui est quand même le grand quotidien au Royaume-Uni, en tout cas, quand je dis grand, très populaire, Kelvin McKenzie, éditorialiste du Sun, qui a appelé ouvertement, donc le quotidien de Rupert Murdoch, qui a appelé ouvertement au Brexit, et qui, deux, trois jours après le Brexit, écrit « Quand j'ai mis ma croix à côté du livre, j'ai ressenti une montée comme si pour la première fois dans ma vie, mon vote comptait. » Je le cite. « J'avais du pouvoir. Quatre jours après, je ne ressens plus vraiment la même chose. J'ai les remords de l'acheteur, un sentiment de « fais attention à ce que tu souhaites. Pour être honnête, je suis inquiet de ce que nous réserve l'avenir. » Voilà, l'éditorialiste. Star du Sun.
C'est très intéressant. Je crois que c'est ça, c'est-à-dire que tant qu'on était dans la campagne, on était dans les slogans et on était dans l'irréalité, et le lendemain, par la vertu du droit européen, qui est quand même un des trucs les plus intelligents qu'on ait réussi à inventer, eh ben on se retrouve soudain dans la réalité, par la vertu de l'intelligence des gens qui rédigeaient ce fichu article, qui font qu'il y a cette période de 2 ans de négociation avec certaines procédures, etc. Et tout d'un coup, il revient dans la réalité, il réalise que l'Union européenne, que le Royaume-Uni pensait se retrouver et qu'en réalité, l'Union européenne faisait partie de son identité et qu'il est en train de perdre une partie de son... De même que l'Union européenne est orpheline du Royaume-Uni ou sur le point de le devenir. Donc, il réalise ça qu'en fait, pour se retrouver, pour être soi-même, il ne faut pas forcément être tout seul, quoi.
Édouard Ferrand, honnêtement, la fête pour les populistes et les eurosceptiques est un peu gâchée, là, quand même.
L'Union européenne, c'est le néant qui attend le chaos. Voilà. De toute façon, l'Union européenne. Eh oui, mais madame, il faut regarder la réalité. Regardez l'aspiration démocratique des peuples. La démocratie, elle n'est pas à géométrie variable. Elle n'est pas parce qu'on nous a sorti le fait qu'il y ait 75% de jeunes qui aient souhaité rejoindre l'Union européenne. Non, il y a eu un vote démocratique qui a été fait. Et cette démocratie, vous l'avez oubliée, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un gouvernement sans démocratie, sans les peuples, sans les nations. Et je crois qu'il est temps, justement, que chaque nation retrouve sa souveraineté, son identité, parce que c'est ça, demain, le sens de l'histoire. Il va dans notre sens, et vous verrez que petit à petit, après les Français, les Hollandais, les Autrichiens, tout le monde va demander son indépendance.
La langue anglaise, parmi les dommages collatéraux, la langue anglaise pourrait-elle disparaître ici à Bruxelles? On en discute dans le cadre des coulisses de l'Europe de Politico avec Maya de la Baume qui nous rejoint juste après le journal. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Noguès.
Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Dans la première demi-heure, on s'est posé cette question. Les tenants, les artisans du Brexit sont-ils des charlatans? Édouard Ferrand, le chef de file de la délégation Front National ici au Parlement européen, a tenté de nous dire que non, que c'était pas des charlatans.
Non.
J'ai pas été tout à fait convaincu, moi aussi.
Bon, ben, je reviendrai là.
Vous reviendrez en deuxième semaine?
Non, en deuxième mi-temps.
En deuxième mi-temps. Vous êtes là en deuxième mi-temps. Frank Engel, pas convaincu non plus. Eurodéputé luxembourgeois du PPE.
Moi, je n'ai aucun problème
avec une décision souveraine d'un peuple. Mais je crains que cette décision a été basée sur des fondements fallacieux.
Voilà, et Florence Autret de la GFI est également avec nous. Bonjour Maya de la Baume.
Bonjour,
de Politico pour vos coulisses de l'Europe. Alors ça, c'est quand même... Alors ça, c'est quand même l'anglais. L'anglais pourrait disparaître de Bruxelles. Expliquez-nous ça.
Mais il y aura moins d'anglais s'il y a un Brexit.
Oui.
Il y aura numériquement moins d'anglais. Donc peut-être on utilisera un peu moins l'anglais aussi, même si en pratique, ça restera l'anglais la langue prioritaire.
D'accord, bon. Mais en tout cas, l'anglais pourrait disparaître des langues officielles de l'Union européenne. C'est ça que vous...
Selon la législation, oui.
Selon la législation, oui. Eh bien, on va en discuter avec vous et puis ensuite dans la revue de presse d'Éric Scholl. On ira au Danemark, on ira en Pologne, on ira aux Pays-Bas et puis ensuite... ça me surprend, on parlera de porno. Bon, ben voilà, Éric nous racontera ça, ça fait beaucoup sourire. Franck Engel, voilà, demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrer dans les coulisses de l'Europe.
C'est quoi cette histoire, Maya de la Baume? L'anglais ne sera-t-il plus une langue officielle après ce Brexit? Mais attendez, l'anglais est quand même utilisé partout dans l'Union européenne. C'est la langue usitée.
Oui, mais alors, ça a été une question soulevée par une députée polonaise il y a quelques jours, Danuta Hubner, qui est la chef de la commission des affaires constitutionnelles, et qui a dit devant les députés que la législation, selon la législation en fait, les Anglais ont déposé l'anglais comme langue officielle après avoir rejoint l'Union européenne, et que c'est la seule langue officielle, en fait, c'est l'anglais est la seule langue officielle aujourd'hui, puisqu'elle a été déposée que par l'Angleterre, et non pas ni par l'Irlande, ni par Malte,
mais c'est ça,
eux utilisent
à Malte,
l'anglais.
Ils parlent anglais. En Irlande, ils parlent anglais.
Ouais.
Mais donc, a priori, l'anglais devrait rester une langue officielle de l'Union européenne.
Mais en fait, l'Irlande et Malte, une fois qu'ils ont rejoint l'Union européenne, ont déposé leur langue officielle, qui est le maltais pour Malte, et l'irlandais, qui est
le
je ne sais pas le prononcer.
Le gaélique.
Oui, mais ça se dit gaelge, un truc comme ça.
D'accord. Oui, c'est la particularité de l'irlandais, c'est que ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, en fait.
Hein. Voilà, exactement. Ouais.
Bref, mais donc, en gros, ça veut dire que Malte... et l'Irlande, sachant que le quota, que la langue anglaise était déclarée par le Royaume-Uni, se sont dit, nous, on va mettre nos langues minoritaires à nous. Et finalement, donc, l'anglais disparaîtrait. Mais bon, visiblement, ces déclarations de Danuta Hübner, du côté de la Commission européenne, ça a été vite démenti.
Oui, ça a été démenti parce que, dans la pratique, l'anglais reste la langue prioritaire. Et en plus... un changement.
Ah non, c'est pas la langue prioritaire.
Enfin, la langue majoritaire. Le français et l'allemand.
La voix masculine
sont aussi...
qui s'est manifestée pour nos auditeurs, c'est Édouard Ferrand, élu Front National. On continue.
Non, il y a trois langues officielles, effectivement, l'anglais, l'allemand et le français.
Les langues de travail, comme on dit.
De travail, voilà. Working language. Mais forcément, l'anglais, on l'utilise tout le temps ici, tout le temps pour les documents, pour les conversations. Peut-être trop, je ne sais pas, mais. Du coup, la Commission a dit, de toute façon, tout changement sur la langue se fera dans l'enceinte du Conseil européen. Donc ça sera décidé de toute façon par le Conseil et il y a très peu de chances que ça change.
Édouard Ferrand.
Simplement sur la langue française, qu'est-ce que je constate? Jusqu'au traité de Trianon en 1919, le français était la langue des traités européens. Et aujourd'hui, si vous voulez, insidieusement, lentement, méticuleusement, l'anglais prend le dessus sur les autres langues des 28 nations européennes.
Vous pensez qu'il y a un complot ?
Non, mais ça nous pose un réel problème de souveraineté, parce qu'il y a une finalité politique derrière une langue. Derrière une langue, il y a une culture. Il faut ouvrir les yeux. C'est qu'on n'oublie pas nos racines. Moi, j'aime bien nos amis anglais. On est même fiers d'eux aujourd'hui.
Mais Monsieur Ferrand,
je voudrais vous dire que le français ne doit pas être négligé, puisque la France est un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne, et qu'à ce titre-là, il doit être respecté aussi bien dans le fonctionnement que dans sa langue.
Mais le français n'est pas négligé.
Complètement. Tous les rapports sont en anglais. Je vous le dis, je lui...
La langue de travail de la Cour de justice européenne, qui n'est pas une institution que vous aimez beaucoup probablement, mais enfin qui est quand même fondatrice dans tout le système, est le français. Je veux dire, le français est la langue de travail de la Cour de justice.
Les documents de travail faits dans l'urgence sont toujours en anglais. Vous croyez que je vais passer mon temps
à décrypter? Oui, parce que c'est la langue commune. Et
les conférences de presse de la Commission européenne sont en règle générale en anglais et en français. Vous devez y assister.
Franck Engel, vous qui venez d'un pays où on parle trois langues au quotidien.
Moi, je constate que c'est beaucoup plus facile ou peut-être sentimental pour quelqu'un dont la langue est ou était langue internationalement utilisée, de s'épancher sur ce sujet que pour moi. Parce que moi, à la fin du compte, je dois de toute façon le faire dans une langue étrangère, peu importe laquelle, que je le fasse en français ou que je le fasse en anglais, à la rigueur, ça m'est relativement égal. Et avant, M. Ferrand, il fallait bien que tous les autres apprennent le français aussi. Hein.
Mais oui.
Ce n'était pas plus juste par rapport à tout cela que le fait de devoir aujourd'hui apprendre l'anglais. C'est un choix entre l'un et l'autre.
Non, mais
il se trouve simplement que le français, à un moment donné, a...
Il y a une dérive vers la germanisation des institutions.
Germanisation, oui.
Complètement. La France aujourd'hui, malheureusement, chère madame, elle est marginalisée dans l'Union européenne. Nous n'existons plus. Moi-même qui siège à la commission agriculture, aujourd'hui, avant, c'était toujours un Français qui était président de la commission agriculture. Parce que la France reste quand même le premier pays agricole.
Bah, elle est marginalisée parce que, et on l'a dit trois fois, le premier parti représenté ici au Parlement européen, côté français, c'est le Front National.
C'est pour ça qu'elle est marginalisée.
Elle est marginalisée.
Si ça avait été le PPE, ça avait été les Républicains ou les Socialistes, et donc faisant partie ici au Parlement européen de grands groupes politiques avec les Allemands, les Italiens, les Espagnols, etc., il y aurait davantage de représentants français président de commission.
C'est la démocratie, ça.
Bah, mais moi, je veux dire, c'est la démocratie.
L'affaiblissement, vous savez d'où vient l'affaiblissement ? L'affaiblissement, c'est Sarkozy et Hollande. Je crois que Hollande, c'est une caricature même de gouvernement. Il n'existe plus dans les institutions européennes. Nous sommes complètement discrédités et on pâtit justement de cette image de marque. Aujourd'hui, le français, c'est vrai, il est complètement marginalisé. Vous savez combien il y a de présidents de commission sur les 22 qui sont français ?
Écoutez, je devrais le savoir, j'avoue.
Il n'y en a que deux.
Mais non, mais c'est une commission très importante.
C'est pas une colle.
Attendez. Je veux dire, la commission du budget, c'est quand même pas n'importe laquelle.
Et c'est pour ça. Et ce que je voulais dire.
Et commission de la pêche.
Mademoiselle,
et la commission de la pêche. Sachant que visiblement, vous nous parliez des quotas et des poissons tout à l'heure.
On va en avoir plus. Je veux dire, c'est quoi ce truc?
Mais ce que disait mademoiselle, c'était un clin d'œil pour dire simplement. De faire sous-entendre que le français est marginalisé politiquement. Et ça se manifeste aussi par la langue.
Ce que disait finalement Maya de Lamont, c'est qu'au contraire, l'anglais risquait de se retirer au profit du français. Donc vous devriez être très content, Edouard Ferrand. Et de l'allemand, et peut-être du letton. Pourquoi pas la revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
La revue de presse avec Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. Bonjour Éric.
Bonjour Yann-Anthony.
Alors au Danemark, ce sont les élites qui en prennent pour leur grade.
Oui, dans ce petit pays scandinave, l'Union européenne est souvent décriée et le parti du peuple danois, ce parti populiste, est lui partisan d'un référendum. Ce qui est certain, c'est que le vote britannique a provoqué un rejet des élites. Voilà d'ailleurs ce qu'écrit un éditorialiste du journal Jyllands-Posten. Qui a voulu voir exiger une union toujours plus étroite? Est-ce le peuple danois, le peuple français, l'italien, l'anglais? Apparemment pas. Et la journaliste danoise poursuit, et je la cite, « Quelles que soient les implications du Brexit, c'est probablement faire preuve de trop d'optimisme que d'espérer un examen de conscience dans la tour d'ivoire. L'autosatisfaction y est inaltérable. » Voilà, c'est dit.
Florence Sautret, examen de conscience dans la tour d'ivoire, vous y croyez?
Je pense que les gens sont quand même très très choqués, pas juste tristes, mais et qu'ils ont même un peu peur. Je pense que évidemment c'est nécessaire parce que on peut pas être un dirigeant impopulaire et ou diriger des institutions apparemment assez impopulaires et faire comme si ça n'existait pas. Donc effectivement, il faut certainement changer quelque chose. Je suis pas sûre que si chacun prend ses jambes à son cou, ça va beaucoup améliorer le système, mais certainement, oui, il faut changer des choses.
Ce que dit le papier qui est intéressant, c'est le risque de contagion et on en parlait déjà avant. Avant que le Brexit se passe vraiment, c'était qu'est-ce qui allait se passer pour les autres pays comme le Danemark qui ont des systèmes de opt-in, opt-out, enfin qui ont toujours pris un peu ce qu'ils voulaient de l'Union européenne d'une certaine façon. Et maintenant, on arrive au stade où, bon, ben, forcément, c'est un bon exemple pour des pays comme ça. Je pense non.
Et vous êtes aussi contre les élites par rapport à ça, Edouard Ferrand ?
On a affaire à une Union européenne technocratique et ultralibérale. Et vous n'avez pas vu venir le vent de la liberté. Pour moi, l'Union européenne, c'est l'Union soviétique. C'est une matrice qui vise à imposer notamment aux parlements nationaux, à les affaiblir dans leurs lois, à faire en sorte que justement tout se dirige ici à Bruxelles. Et je crois que les nations, les peuples ont vu qu'il n'y avait rien à attendre de cette Union européenne. Et c'est un juste retour justement, cette victoire du Brexit,
pour la démocratie européenne. Et je pense que c'est bien. Mais les gens ont du mal à ouvrir les yeux. Et il est temps qu'ils voient exactement ce qui va se passer.
Ce qui me fait sourire aussi, quand j'ouvre les yeux justement et que je regarde ce qui m'entoure, Nigel Farage, donc eurodéputé britannique, leader du UKIP, quand il a dit « c'est la victoire des modestes ». Ce Brexit, ça me fait bien sourire de sa part, sachant que lui avant était banquier et qu'un jour je l'interrogeais ici en tant qu'eurodéputé sur ses revenus en tant qu'eurodéputé. Il doit gagner 6 7 000 euros plus ci plus ça, il doit arriver à 10 15 000 euros par mois. Et il disait, mais attendez, moi c'est la misère pour moi, eurodéputé. Avant, quand j'étais banquier, je gagnais beaucoup plus que ça. Donc quand je vois que c'est lui le leader des modestes, ça me fait sourire. Frank Engel.
Et que ce sont des gens comme ça qui font souffler le vent de la liberté, n'est-ce pas, pour rétablir la démocratie.
Enfin, ça veut dire surtout qu'il ne vit pas que de la politique, monsieur. Mais ça veut dire que justement, lui, c'est ce que c'est que la vraie vie d'être au travail. Moi, j'ai un emploi, j'ai 5 enfants, moi.
Lui pour l'instant,
je ne cherche pas à vivre que de la politique. Et moi, je suis content quand même, quelqu'un comme Farage, qui a quand même des revenus autres que de la politique, parce qu'il ne dépend pas d'un système politique.
Il ne dépend pas d'un système politique, mais ce que je trouve toujours drôle, c'est que tous ceux, ils sont nombreux, et tous les députés du Front National en font partie, qui veulent essentiellement abolir le système européen, y inclut la démocratie européenne, parce que pour vous, mais laissez-moi terminer pour une fois.
L'Europe, c'est pas une européenne.
Vous participez aux institutions européennes, vous n'avez jamais personnellement refusé aucun subside européen. Ce que je trouve assez drôle.
Direction la Pologne, Eric, et la Pologne qui veut en finir avec le traité de Lisbonne.
Oui, c'est en tout cas ce que réclame le président du parti Droit et Justice, Jarosław Kaczyński. C'est dans une interview qu'il a accordée au quotidien de droite, le quotidien conservateur Rzeczpospolita, après le vote britannique. Au passage, celui qui est donc aujourd'hui le chef de la formation au pouvoir en Pologne confie qu'il craint un effet domino dans l'Union européenne en citant au passage les cas de la France, des Pays-Bas, de l'Autriche ou de la République tchèque. Et le journal Rzeczpospolita continue et commente ainsi cette proposition de nouveau traité européen en écrivant « Pour que la Pologne ait quelque chose à dire, elle doit ranger son épée de guerrier contre Bruxelles ».
Vous êtes d'accord avec ça, Florence Autret, pour que la Pologne ait voix au chapitre ?
Je sais, c'est toujours la même question, c'est dire quoi d'autre à la place, quoi. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils n'ont pas? Je trouve que ce que fait l'Europe centrale est intéressant, ce système maintenant, dit du groupe de Visegrad, où la Pologne s'est organisée avec d'autres pays centre-européens pour tenir tête aux grands États sur les questions économiques, mais surtout sur les questions de migration. Je trouve que c'est une évolution intéressante de l'Union européenne. Ça montre justement que c'est pas un système soviétique, c'est pas un système fermé. Sortir de là, je comprends pas. Pour moi, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève du caprice, c'est-à-dire au lieu d'exploiter le potentiel d'une situation, on imagine qu'on va en créer une tout à fait nouvelle.
Aux Pays-Bas aussi, la bataille du référendum a commencé, Eric.
Alors oui, et c'est le leader populiste Geert Wilders qui appelle de ses voeux cette consultation. Il a d'ailleurs envoyé un tweet dans ce sens juste après le vote britannique en disant « Hurrah pour les Britanniques, maintenant c'est à nous ». Et le journal néerlandais Die Volkskrant fait, lui, le constat, en tout cas, que les partis traditionnels sont choqués et déboussolés. Et le titre néerlandais dit son hostilité à un référendum. Même ses partisans les plus fervents doivent admettre que ce n'est pas le bon moment, écrit Die Volkskrant. Mieux vaut d'abord aller voir comment la Grande-Bretagne s'en sort. Et c'est vrai, et c'est d'ailleurs peut-être plus sage.
Qu'est-ce que vous en pensez, Frank Engel?
Je pense qu'il y a une large majorité de Polonais qui, s'ils étaient consultés demain, choisiraient de rester dans l'Union européenne. Il y a une large majorité de Néerlandais qui, s'ils étaient consultés demain, choisiraient de rester dans l'Union européenne. Tout comme il y a une large majorité de Français qui choisiraient de rester pour le reste spéculer.
Nous avons, au dernier référendum, nous avons rejeté la Constitution européenne.
Je sais, vous rejetez presque tout.
Je peux répondre,
n'est-ce pas?
Ce monsieur parle pour moi, alors je t'appelle
quand même. Édouard Ferrand, je vous propose de répondre.
Oui, nous, dans la Constitution 1958, nous avons l'article 11 qui permet justement le devoir discrétionnaire du président de la République de pouvoir organiser un référendum. François Hollande a dit qu'il ne le ferait pas. Ouais. Simplement, Marine Le Pen a dit que si elle était élue, dans les 6 mois de son élection, elle organiserait un référendum. La consultation populaire, vous y êtes hostile. Parce que vous faites un déni de démocratie. Vous ne voyez pas ce qui s'est passé. Vous voyez notamment dans le vote des Britanniques, je l'ai dit au début de l'entretien, il s'est fait sur la question des migrants, la politique migratoire de Mme Merkel, 3 millions de migrants qui arrivent comme ça en Europe, et il s'est fait sur la directive détachement des travailleurs. Regardez ce que vous avez fait, analysez, au lieu de voir toujours critiquer le choix des peuples.
Florence.
Cette politique d'abord, n'a pas touché le Royaume-Uni.
Le référendum, c'est pas la démocratie, et la démocratie, pas le référendum, premièrement. Deuxièmement, si on a une vague de... ne se résume pas à ça. Et deuxièmement, si on a une vague de référendum ou de référendum, c'est la fin du système. C'est la fin du système. C'est la fin de l'Union européenne. Je veux dire, il faut quand même faire face à ça. Enfin,
si on a une contagion,
c'est pour ça que les gens sont un peu
surtout si c'est 28 référendums et pas et éventuellement une consultation transeuropéenne, on peut arriver à.
Après, juste un mot. La méthode qui a été utilisée, moi, je l'ai beaucoup critiquée comme journaliste, de faire cette espèce de réunion entre chefs d'État, de proposer un deal au Royaume-Uni, ensuite d'organiser un référendum dès lors que la menace du référendum existait. Elle est vachement imparfaite, mais en même temps, dans la situation présente, si réellement on a cette vague de demandes de référendum, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Imaginez que vous fassiez, que vous négociez avec la France, avec l'Italie, avec la Pologne, un deal à la Britannique. Qu'est-ce que c'est? C'est une convention. Ça s'appelle une convention.
Non, c'est la France.
Si tout le monde veut un référendum et renégocier son deal,
en tout cas,
ça
en
s'appelle
tout cas, ce
une convention.
Apprend, Eric,
et c'est
que le Brexit est plus fort que le porno.
Alors oui, c'est d'ailleurs le journal The Independent qui fait les comptes. Pour la première fois, écrit le journal britannique, eh bien le porno a été détrôné le 24 juin de la première place des recherches de Google dans le monde et le Brexit est passé devant. Ce qui nous vaut, de la part du journaliste, un commentaire très pince sans rire. Certainement, pour la première fois, une question de politique britannique a intéressé davantage les internautes que la pornographie.
Voilà, c'est le sexit, selon Eric Scholl. Merci beaucoup, Maya de la Baume, pour vos coulisses de l'Europe. Merci, Florence Autray, de la GFI, pour vos analyses. Merci, Franck Engel. Je vous ai senti énervé, là, aujourd'hui, Franck.
Avec tout ce qui s'affirme dans ce contexte et en dehors de ce contexte, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas s'énerver.
Bon, Franck Engel, eurodéputé luxembourgeois du PPE. Édouard Ferrand, pour vous, tout va bien ?
Oui, tout va bien.
Chef de file du Front National au Parlement européen. Merci, à bientôt. Merci à Alexandre Rougier d'avoir préparé cette émission. Merci aux équipes, aux sémillantes équipes de Pascal Simard d'avoir mis en son et en image cette émission. Merci, Eric Scholl. Aussi, on vous oublie pas. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, toujours le même jour, toujours à la même heure. Passez un bon week-end à l'écoute de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.